Bonjour à tous. C'était le fun de pouvoir profiter de la première neige comme ça ce matin ensemble. Donc, j'aimerais juste souhaiter la bienvenue, bien, premièrement, à tous ceux qui nous visitent particulièrement, mais aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un de nos jeunes qu'on a envoyé cette année à l'école biblique comme membre du staff là, pendant l'année. Donc, Florian Coudgenou qui est avec nous. Je veux juste saluer sa présence et ce matin, si vous le voyez, allez le saluer, demandez-lui comment ça va, comment vous pouvez prier pour lui, s'il a des besoins particuliers. Donc moi, j'étais vraiment impressionné cette semaine, je l'ai vu à quelques reprises à la jeunesse. Il n'est pas là de l'année, mais là, il vient rendre visite à son église, il vient servir l'église, il est au son ce matin, il a donné un témoignage à la jeunesse encourageant aussi vendredi. Donc je voulais juste souligner ça, je trouvais ça très bien, et je suis très content de le voir aussi, donc allez le saluer ce matin. Donc, moi aussi, je suis allé à l'école biblique, mais ça fait plus longtemps, en 2005-2006, et quand j'étais à l'école biblique, j'ai fait partie de l'équipe de hockey. À l'école où j'étais, il y avait une équipe de hockey qui jouait dans une ligue, là, une ligue de garage, donc c'était pas comme une équipe collégiale ou quoi que ce soit. Moi, c'était la première fois que je jouais dans une équipe de hockey de ma vie en plus. Et puis, une des premières rencontres qu'on a eues avec le coach, juste avant de commencer la saison, il nous explique un peu comment ça va fonctionner, les pratiques, les games et tout. Puis, il nous dit une chose, il dit, les gars, il dit, cette année, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que vous n'avez pas le droit de répliquer. Si on vous fait quelque chose, si on te fait un crush check ou qu'on te sac après, qu'on te crie après, tu sais, dans le feu de l'action, s'il y a de la chicane qui commence à pogner, si la chaleur monte pendant le match, je vous interdis de répliquer puis de répondre. Puis là, il dit, si vous répondez, je vous sors, vous ne jouez plus, vous n'allez pas jouer du match, puis vous n'allez pas jouer peut-être même le prochain match. Fait que là, moi, je suis comme, OK, ça, c'est un beau défi pour moi de ne pas embarquer, de juste jouer au hockey. Puis, mais ça m'avait impressionné. J'étais comme, OK, mais dans le fond, pendant le match, c'est sûr que ça va sûrement être difficile de faire ça, mais je le sais que, maintenant que le coach le dit, je sais pourquoi il veut pas qu'on fasse ça. Puis il nous l'a dit, en fait, il dit, nous, on veut avoir un bon témoignage quand on va être sur la glace. On veut pas répondre au mal par le mal. Puis ce qu'il nous disait, c'est que même quand vous jouez au hockey, je veux que votre identité en tant que chrétien soit visible. Puis c'est pas... Puis dans cette histoire-là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas tous les joueurs toujours même respecté à 100% ça, puis on a vécu les conséquences de ça, mais c'était quelque chose qu'en tant qu'équipe, on voulait comme dire, OK, nous autres, les gars, on veut représenter Jésus, même quand on est en train de jouer au hockey sur la glace. Quelque chose qui m'a toujours marqué. Mais qu'est-ce que ça fait de ne pas répondre à ce moment-là? Puis des fois, on avait l'impression que les autres équipes savaient qu'on avait cette consigne-là. Qu'est-ce que ça fait de ne pas répondre? Qu'est-ce que ça fait de répondre avec douceur, de s'en aller, de continuer, de faire comme si ça ne nous a rien fait? Ou juste des fois, tu sais que ça te fait quelque chose, mais tu dois quand même le faire. Comment on fait ça? Comment on fait pour avoir de l'amour, de la considération pour ceux qui nous dérangent, pour ceux qui ne pensent pas comme nous, qui nous font du mal? Et ce matin, on va continuer ensemble. Et les dernières fois que j'ai prêché, on a commencé ensemble le sermon sur la montagne. On a regardé les béatitudes. On va lire cette section-là encore. Mais dans notre étude sur les béatitudes, on va regarder encore la troisième de ces béatitudes-là, qui est la douceur. Qu'est-ce qu'agir avec douceur? Comment agir avec douceur? Donc, on va prier. Et puis ensuite, on va lire ensemble ce passage dans Matthieu 5. Seigneur Jésus, on te remercie pour de nous avoir réunis ensemble ce matin. Merci parce que on est réunis autour de ta parole, autour de ce désir de te connaître, d'apprendre à grandir, d'apprendre à te connaître, de grandir, Seigneur, dans tes voies, dans tes instructions. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici. Merci pour ton amour dans chacune de nos vies. Merci pour les frères et sœurs qui sont avec nous. On te prie ce matin que tu puisses parler à notre cœur de façon spécifique, comme on a besoin que tu nous parles, Seigneur. Tu nous connais. Et on te prie que ce temps de réflexion, d'enseignement puisse être un temps où on peut s'arrêter et réfléchir et considérer ce que tu veux pour nous, Seigneur, et comment tu veux qu'on puisse retourner chez nous avec des cœurs d'adorateurs qui cherchent à te plaire et à t'obéir, Seigneur, dans toutes nos voies. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen. Donc, lisons ensemble Matthieu 5, à partir du verset 3, où ce que Jésus dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Et ce matin, on va simplement s'arrêter sur la troisième de ces béatitudes qu'on appelle le verset 5 qui dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Mais tout d'abord, je pense qu'on veut se rappeler dans quel contexte est-ce que Jésus nous enseigne ça. Quand on lit toutes ces béatitudes-là, une en arrière de l'autre, on peut voir quelque chose de très important. C'est que pour Jésus, ce qu'il nous enseigne, c'est que le processus est aussi important que la destination. Jésus nous dit à répétition ce qui va nous arriver, où on s'en va en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, comme on a vu, c'est ceux qui sont ses enfants, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont cru en Jésus, qui suivent Jésus, qui à ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort sur la croix, mais qui va mourir sur la croix pour leur permettre de vivre cette vie avec lui. Mais Jésus leur donne ce discours, au début de son ministère, ce discours triomphal, qui dit que à la fin, ce royaume-ci va être le royaume victorieux. Le discours est rempli de certitudes éternelles. Jésus dit, vous êtes heureux, vous allez voir Dieu, vous allez hériter de la terre, vous allez être rassasiés. Voici les promesses que Jésus nous donne. Ce discours est plein d'espoir, qui d'une réalité qui bien souvent est très différente dans notre réalité présente. Mais Jésus nous l'enseigne avec certitude comme un accomplissement qu'on ne peut pas nier, qui va avoir lieu. Et on dit souvent que la vie, c'est souvent on entend cette expression-là, que la vie, c'est comme un marathon. Et comme plusieurs d'entre vous savez, j'ai eu la chance de courir un marathon il y a deux semaines. Un marathon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une course de 42 km et un petit peu plus. Et honnêtement, je réfléchissais à ces certitudes éternelles que Jésus nous donne, à la réalité présente, puis je ne faisais que penser à cette course que j'ai vécue dimanche il y a deux semaines. Parce que honnêtement, il y a eu toutes sortes d'émotions pendant cette course-là. Une course de 42 km, ça dure 4 heures. 4 heures de course. Et puis, ouais, j'ai fait le choix de faire ça. C'était la personne qui m'a forcé. Mais c'était quelque chose que je partageais à la jeunesse. J'avais peut-être 16 ou 17 ans quand je me suis dit un jour, je vais courir un marathon. Donc, c'était quelque chose que j'avais le désir de faire depuis longtemps. Et puis là, je fais la course. J'étais avec un ami. J'ai eu la chance de courir avec un ami, de ne pas être toute seule. Et au début, pendant la première moitié de la course, c'était le fun. On avait du plaisir. On jasait ensemble. On admirait le paysage de la ville de Québec. Tout était beau. Plein de belles émotions, de belles sensations. Puis si on dit à ce moment-là, ah, à la fin, tu vas voir, c'est mental, c'est vraiment le fun. Quand tu vas croiser le fil d'arrivée, tu vas voir le sentiment d'accomplissement, de joie, d'euphorie même à cause d'un petit peu tout ce qui se passe. Tu vas voir, ça va être fou. Au début de la course, dans les 20 premiers kilomètres, on n'avait pas de misère à le croire puis à le voir. Tout le monde était content autour de nous. Tout le monde riait. Et là, quand on est arrivé, ceux qui connaissent la ville de Québec, on était à la hauteur du fleuve au 23e kilomètre et à la hauteur des plaines d'Abraham au 27e kilomètre. Donc, on monte à peu près 80 mètres de dénivelé pendant ce temps-là. Et là, à ce moment-là, j'avais plus le goût de finir la course. À ce moment-là, je m'étais dit, pourquoi je fais ça? C'est vraiment plate. J'ai mal partout. Puis ensuite, pendant tout le reste de la course, on vivait le fait qu'on a fait ça. Et là, il y avait des crampes, on avait mal. Il y a des gens qui boitaient, il y a des gens qui marchaient, il y a des gens qui... Et là, moi, j'étais là, puis je me dis, OK, j'ai hâte de finir, mais en ce moment, je ne vis pas la joie que c'est supposé de procurer un marathon. Et je vous dirais qu'arriver à 2 kilomètres de la fin, c'est comme si tout d'un coup, là, tu vois le fil d'arrivée, puis tu n'as plus mal nulle part. Puis là, les gens se remettent à sourire. Puis quand tu vois le fil d'arrivée, là, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait, c'était sur la Grande Allée à Québec, il y avait plusieurs personnes qui venaient encourager. Il y avait la musique qui était forte, les gens t'applaudissaient, ils étaient contents. Et puis là, moi, on dirait que je voyais comme tout mon été d'entraînement, puis tout justement le fait que ça faisait plusieurs années que je disais que je voulais faire ça. Puis là, je voyais le fil d'arrivée, puis c'était la joie, puis tout d'un coup, tu as du plaisir. Puis quand on... Comme quand on est arrivé au fil d'arrivée, c'était juste comme, on était juste super contents. Mon ami, on s'est retrouvés, on a fait une accolade, j'ai retrouvé ma femme. J'ai éclaté de larmes. Je ne sais même pas pourquoi, là, j'avais pas de la peine, mais c'était juste comme, wow! Mais c'est juste, je pensais à ça parce que je me disais, si on vivait les réalités présentes, toujours en se disant, ah, ce que Dieu me promet, les promesses de Dieu, ce que Dieu fait, Dieu n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Mais on arrive à comprendre que dans la vie, quand on fait les choses avec un but en tête, avec une destination en tête, on sait où on s'en va, ça change complètement la raison pour qu'on fait les choses. Et la différence avec les promesses de Jésus, puis moi qui est en train de courir un marathon, c'est que moi, j'étais à une crampe près de plus être capable d'avancer. J'aurais pu ne pas finir la course quand même. Mais Jésus, ses promesses sont telles qu'il n'y a rien qui va arriver dans cette vie qui va faire que ces promesses-là ne se réaliseront pas pour toi. Et quand Jésus est là, puis il dit, il nous appelle heureux. Et tu te dis, mais je ne suis pas heureux en ce moment, mais Jésus répète, oui, tu es heureux parce que tu es mon enfant et tu es en direction vers une destinée, un résultat éternel, une victoire, malgré les circonstances. Et ce que ça fait, ce n'est pas juste comme on est dans un mode d'attente. Parce que même si je continue avec l'illustration du marathon, même quand ça ne me tentait plus, je me disais, ouais, mais je vais finir. Je vais être un marathonien, je vais finir la course, je vais réussir. Puis ça, c'était comme, je le vivais différemment que si dans ma tête, il n'y avait aucun but de le faire. Parce que je parle avec des gens qui disent, moi, il n'y a aucun but pour moi de courir, puis ce n'est pas quelqu'un qui va courir un marathon avec moi, puis c'est correct. Mais ces promesses-là de Jésus nous donnent cet espoir. Qui nous permettent, qui nous donnent ce désir d'écouter ces instructions puis de les mettre en pratique. Mais même avec cette espérance, on sait que le processus, les choses, les exigences de Jésus, et quand j'ai fait la première prédication sur le sermon sur la montagne, c'est en ligne si jamais ça vous intéresse, je disais que ces instructions-là, des fois, semblent si difficiles. Semble tellement difficile à accomplir, mais semble que c'est lourd, c'est dur, c'est impossible. Et quand, comme je disais tantôt, le processus pour Jésus est aussi important que la destination. Et il y a trois choses que Jésus fait quand il parle du royaume de Dieu, puis qu'on voit dans l'évangile de Matthieu où est-ce qu'il va aller tout remplir ses promesses en mourant sur la croix pour dire « Voici le royaume qui va triompher. Voici le roi qui donne sa vie pour que vous puissiez vivre avec lui, pour que vous puissiez vivre dans son royaume, pour que vous puissiez avoir accès à une vie avec lui. Il meurt sur une croix pour nous pardonner nos péchés. Il va vaincre la mort par sa résurrection. » Et voici ce que Jésus a fait à ce moment-là. Trois choses que Jésus fait. Jésus est le libérateur qui délivre son peuple de l'esclavage du péché. Souvent, on va se sentir esclave, on va se sentir incapable, on va sentir d'obéir à Jésus, c'est trop difficile. Mais on oublie que Jésus nous a libérés et a le pouvoir de nous libérer de l'esclavage du péché. Ce n'est plus le péché, ce n'est plus nos incapacités qui guident notre vie. Jésus, le numéro 2, Jésus a le pouvoir de rendre son peuple nouveau. Si on demandait à tout le monde ici aujourd'hui qui est la meilleure version de lui que tu aimerais être, la plupart d'entre nous, on ne peut pas dire oui à ça. Mais on oublie souvent que Jésus a le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Il a le pouvoir de changer nos pires difficultés, nos pires dépendances, notre péché, que nous, on n'est pas capable de faire. Et la mort de Jésus établit une nouvelle alliance dans laquelle la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de son peuple. C'est-à-dire que on a cette relation avec Dieu que Jésus s'est pourvu à la croix. Et puis on est là à vouloir suivre ses exigences. Mais juste le fait de désirer suivre ce que Jésus nous demande, ce que Jésus nous demande de faire. Jésus a mis en nous ce désir-là. Jésus a mis en nous cette loi dans notre cœur. Puis le point que ici, en mentionnant ces trois choses-là, c'est que je ne suis pas seul. Jésus nous présente à quoi ressemble le royaume qu'il vient établir. Et il nous dit « Je fais le travail ». Il nous équipe, nous transforme, nous rend capable de poursuivre les exigences de son royaume. Mais notre problème, c'est que notre mode par défaut est que bien souvent, on cherche à nous améliorer par nous-mêmes pour avoir l'approbation de Dieu. Donc, notre lecture, les lunettes qu'on met, on lit, OK, juste les trois premières béatitudes qu'on a vues, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Et là, on lit toutes les autres exigences qu'on peut voir. Et là, on se dit, quand je vais être capable de bien faire ça, Dieu va m'aimer. Alors que ces trois béatitudes-là, ces trois choses-là que Jésus nous dit, nous disent tout le contraire. Tu es heureux quand tu reconnais que tu as besoin de Jésus. Tu es heureux quand que le péché dans ta vie te rend triste. Et tu es heureux quand tu reconnais, et c'est ce qu'on va voir ce matin, que la vie n'est plus et n'est pas à propos de toi. Donc, notre mode par défaut est qu'on cherche à nous améliorer par nos propres forces. Mais tout ce qu'on fait à ce moment-là, quand on fait ça, c'est qu'on est en train de construire un mur de briques qui nous empêche de voir ce que Jésus a fait et ce qu'il continue à faire dans nos vies. Et c'est de ça qu'on a besoin. À ce moment-là, on perd la joie, on perd ce goût de grandir parce qu'on ne voit plus la beauté de l'Évangile. On ne voit plus la bonne nouvelle de Jésus qui a donné sa vie pour nous transformer. Donc, comme je disais, la première béatitude nous a enseigné qu'on a besoin de Dieu. On reconnaît notre besoin de Dieu. On n'aime pas le péché. et ce n'est pas à propos de moi. Et voici ce que Jésus dit à propos de la douceur. Mais à qui s'adresse ce discours? Bien, Jésus parle à ceux qui souffrent. Jésus parle à ceux qui vivent de l'injustice. Jésus parle à ceux qui ne se sentent pas à la hauteur de Dieu et des autres. Jésus parle à ceux qui se sentent peut-être trop à la hauteur. Jésus s'adresse à ceux qui ont besoin de plus de courage. Et quand on parle de la douceur, qu'est-ce que la douceur? Il y a des traits de personnalité de personnes qui sont, on pourrait dire ça, c'est une personne douce. Il y a des gens, on dirait que quand tu es dans la salle avec eux, tout devient plus calme. Ils ont une voix douce, ils ont une patience légendaire. Puis là, c'est des gens naturellement, on dirait conciliateurs, tout va bien, tout est plus calme quand on est autour d'eux. Puis on n'est pas tous comme ça. On reconnaît ça, on n'est pas tous comme ça. Puis même que la douceur, parfois, dans certains cas, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche ou qu'on dit ça, c'est le trait d'une personne qui fonce dans la vie puis qui est capable d'avancer. Puis qui... Au mois de septembre, on est 10 frères de notre groupe Connexion qui sont allés aux Adirondacks pour une fin de semaine. On est allés monter deux montagnes pendant la fin de semaine. On a passé du temps ensemble. Puis, quand on a fait la publicité de ça ou quand on s'en parlait, c'était pas comme OK, let's go, les boys, on va vivre une fin de semaine pleine de douceur et on va prendre soin les uns des autres. Mais il y avait ce désir-là de prendre soin des uns des autres. Mais c'était plutôt comme, hey, les gars, on va aller vivre une aventure ensemble. On est des gars, on va aller dans le bois, on va dormir avec les ours. J'étais content qu'on ne les a pas vus. Mais, puis là, on compare ça, on voit comme la douceur, comme quelque chose de, parfois comme une attitude, quelqu'un qui est plus docile, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui cherche toujours à plaire les autres, qui ne s'affirme pas. Mais pourtant, Jésus veut nous libérer de ces choses-là. Ce n'est pas ça la douceur dont Jésus parle. La personne qui est douce, selon le discours sur la montagne, c'est quelqu'un qui, tout d'abord, a reconnu qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de Dieu. C'est quelqu'un qui n'aime pas le péché et qui reconnaît que la vie n'est pas à propos de moi. C'est quelqu'un qui a l'humilité de savoir que tout ne peut pas tourner autour de moi. Donc, dans les circonstances de la vie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul. C'est quelqu'un qui est capable de voir les besoins des autres. Parce que Jésus lui-même, qui est un exemple de douceur, qui est l'exemple de douceur, et on va le voir tantôt, un peu comment Jésus a démontré cette douceur-là. Jésus lui-même a été sévère, a dénoncé les hommes religieux qui avaient une mauvaise conception de Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Il a chassé les voleurs dans le temple. On voit Jésus qui se met en colère, mais pourtant Jésus était l'exemple ultime de douceur. Mais la douceur est quand même quelque chose qui n'est pas naturel pour aucun d'entre nous. Parce que pour Jésus, les béatitudes, c'est un trait de caractère qui caractérise les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le royaume. Quand on parle de douceur, on parle de l'opposé de l'ambition et de l'envie personnelle. C'est une approche douce, humble et sans prétention de la personne qui reconnaît sa pauvreté spirituelle et laisse cette douceur guider ses agissements. Il y a quelques étés, avec la jeunesse, on était allés, quand on a fait « J'aime mon voisin », J.B. Cadeau, on vous en parle, on est allés avec une autre église. Donc, on était dans une autre ville en train d'aider une famille chrétienne dans un quartier qui avait des relations avec ses différents voisins. Et on est allé faire du désherbage, on est allé creuser des trous, on est allé faire plein de choses. Puis une des maisons qu'on est allé, c'était le monsieur en question qui avait de l'église, qui avait des amis dans le quartier. On est allé creuser un drain français entre la ligne du terrain, entre son voisin et lui. Fait qu'on parle avec lui, puis c'est comme pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis il nous expliquait que son voisin avait fait des modifications sur son terrain qui avait fait descendre l'eau dans sa maison, puis il y avait eu un dégât d'eau dans la cave. Puis je suis comme, oh, ça doit être vraiment cool comme relation avec le voisin, ça. Fait que je parle avec lui, je pose des questions, puis le voisin était là, puis je sentais qu'il y avait comme une... Ça allait bien, tu sais, puis le monsieur nous parlait, puis nous disait, « Ouais, tu sais, dans cette situation-là, là, j'ai pas... on s'est pas entendu sur tout. Même là, aujourd'hui, c'est moi qui fais faire ce travail-là, c'est pas mon voisin qui reprend son erreur. Puis je les voyais se parler, puis il y avait une belle relation, puis je lui demande, parce qu'on avait les jeunes, les ados à côté de nous, puis j'ai dit, mais est-ce que tu es en conflit avec ton voisin? Est-ce que ça va bien avec... Il dit, ouais. Il dit, moi, j'ai choisi, c'est le choix que lui a fait. Il dit, moi, j'ai choisi d'aimer mon voisin en ne faisant pas un cas avec ça. J'ai voulu payer le prix, dans un sens, pas comme ça qu'il le disait, mais j'ai voulu comme... Je fais ce travail-là, je le fais avec mon voisin, je m'attends à rien de la part de mon voisin, puis je veux continuer à avoir une belle relation avec mon voisin, puis pouvoir même peut-être parler de l'Évangile avec lui. Et moi, j'étais comme, waouh! Je ne l'aurais pas dit comme ça à ce moment-là, mais quel exemple de douceur d'un homme qui a accepté de payer un prix qu'il n'avait pas besoin, qui avait le droit de ne pas payer, mais pour l'Évangile, consciemment, a choisi de payer ce prix-là. Quel exemple de douceur. Et trois traits d'une personne douce. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable d'agir de la sorte dans des situations aussi difficiles, aussi injustes? Mais d'abord, on peut voir que c'est parce que cette personne-là fait confiance en Dieu et dans ses promesses. Malgré les circonstances, l'apparence d'injustice autour de nous. Un psaume qui parle de la personne douce, c'est le psaume 37. Et j'aimerais juste lire, j'aimerais lire les 11 premiers versets de ce psaume. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Et c'est ici au verset 9, le même mot qui est utilisé dans l'Évangile de Matthieu. Ceux qui espèrent en l'Éternel, on parle des doux ici, possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Donc, certainement un contexte où est-ce que la personne, l'enfant de Dieu ici, la personne qui craint Dieu, voit le méchant réussir, voit plein d'injustices autour de lui, voit plein de choses et Dieu nous rappelle par ce psaume, ne t'inquiète pas, continue à faire le bien, continue à faire confiance en Dieu, continue à suivre les instructions de Dieu. Parce que malgré l'apparence de réussite de ces gens injustes, c'est ceux qui espèrent en l'Éternel qui vont avoir le pays, qui vont réussir, qui vont triompher, avoir la victoire. Donc c'est la personne qui fait confiance à Dieu. Numéro 2, c'est la personne qui voit les besoins autour d'elle. Cette personne douce est disposée, avec son humilité, avec le fait qu'elle voit que la vie n'est pas à propos de moi, elle est disposée à voir les besoins des autres et de ne pas se voir au-dessus des autres. Il y a vraiment, dans Matthieu 5, il y a vraiment une progression. Parce qu'après, la personne qui est doux, on va voir heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, on voit que la personne douce, elle est douce parce qu'elle a admis qu'elle était pauvre spirituellement, qu'elle avait besoin de Dieu. Parce qu'elle n'aime pas son péché, elle a cette humilité d'être capable de prendre le recul et maintenant de voir les besoins autour d'elle et de travailler à la justice, de procurer la paix, parce qu'elle reconnaît que ce n'est pas à propos d'elle. C'est la personne qui est disposée à ne pas prendre les choses personnelles, parce que tout ne tourne pas autour d'elle. Numéro 3, c'est la personne qui peut prendre le reproche ou l'encouragement. C'est une chose pour moi personnellement d'admettre que j'ai besoin de Dieu puis que je suis pécheur, puis même d'être très conscient parfois de certains endroits où j'ai besoin de Dieu, puis moins conscient à d'autres endroits. Mais c'est vraiment une autre chose quand que quelqu'un vient me reprendre. C'est vraiment quelque chose d'autre quand un frère ou une sœur ou quelqu'un vient de me faire un reproche ou vient me reprendre. Mais la personne douce reconnaît qu'elle a besoin, qu'elle n'est pas parfaite. Son identité ne repose pas sur ses manquements ou sur ses bons coups. Elle repose sur le fait que Jésus lui a donné une nouvelle identité, que Jésus l'a sauvé de l'esclavage du péché, que Jésus l'a transformé. Donc elle grandit en étant capable de prendre le reproche, l'exhortation des frères et des sœurs. Et on est là ce matin, puis on peut se dire, OK, ouais, moi j'ai de la misère avec ça, je suis pas capable, quand quelqu'un me reprend, je me mets sous mes gardes, j'y arrive pas. Mais rappelons-nous du contexte dans lequel on est baigné ce matin. C'est un contexte de grâce, un contexte où ce que Jésus dit, mais quand ça t'arrive, retourne au numéro 1, puis rappelle-toi que tu as besoin de moi et que je t'ai pardonné et que tu es quand même mon enfant. Mais Jésus était l'exemple ultime de douceur. Jésus a démontré lui-même cette douceur à plusieurs reprises. En allant manger et en aimant ceux que la Bible appelle les gens de mauvaise vie, Jésus faisait preuve de douceur. Il était disposé parfaitement à aimer les autres, même ceux qui n'étaient pas à la hauteur. C'est-à-dire tout le monde quand on est comparé à Jésus. Lors des événements de sa crucifixion, Jésus a fait face aux événements en silence, sans revendiquer ses droits. Et ultimement, il a été doux jusqu'à la croix. Il a enduré cette injustice, il a enduré les faux témoignages, les fausses accusations, un châtiment non mérité pour nous donner la vie avec lui. Pour que nous puissions goûter à cette douceur, à cette justice, pour que nous puissions être capables de pratiquer la justice avec douceur. Que nous puissions avoir cette espérance et cette humilité qui caractérise la douceur de Matthieu 5 ici. Une petite histoire en terminant. L'université Taylor est une université chrétienne située dans l'Indiana. Il y a des années, l'université était très heureuse d'apprendre qu'un étudiant africain, Sam, allait s'inscrire à leur école. C'était avant que les étudiants internationaux ne viennent fréquemment étudier aux États-Unis. C'était un jeune homme brillant et très prometteur. Et l'école s'est sentie très honorée de l'avoir. Quand il est arrivé sur le campus, le président de l'université l'a amené faire un tour. Il a montré tous les endroits, il a montré le dortoir. Et à la fin de la visite, le président a demandé à Sam, Où est-ce que tu aimerais vivre? Dans quelle chambre est-ce que tu aimerais vivre? » Le jeune homme répondit, « S'il y a une pièce que personne ne veut, donnez-moi cette pièce. » Le président s'est tourné et s'est mis à pleurer. Au fil des ans, il avait accueilli des milliers d'hommes et de femmes chrétiens sur le campus et personne n'avait jamais fait cette demande. Si personne ne veut faire le travail, moi je suis prêt à faire ce travail-là. Si personne ne mange avec cette personne à l'école, moi je vais le faire. Je prendrai une place dans le stationnement plus loin pour que les autres puissent se stationner plus proche. Si t'as besoin de te stationner plus proche, c'est correct aussi. Hein? Je veux juste faire attention ici. Je vais accompagner quelqu'un dans ces moments difficiles. La douceur dont Jésus nous parle, c'est accepter que la vie n'est pas à propos de moi, que je peux lui faire confiance avec mes circonstances, parce que je suis dans les bras d'un Dieu victorieux et que je peux regarder les autres et accepter de les servir avec amour. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ce temps qu'on passe ensemble ce matin. Et je te prie vraiment que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous montrer, Seigneur, là où on a de la difficulté à agir avec douceur, avec humilité. Que tu puisses nous montrer, Seigneur, cette espérance que tu nous as donnée. C'est ce qu'on a besoin, Seigneur, pour que tu puisses nous donner des yeux pour aimer les autres comme tu nous as aimés. Rends-nous capables d'aimer, Seigneur. Rappelle-nous que ce n'est pas par nos propres forces qu'on y arrive, mais c'est par ton œuvre à la croix qui continue à nous transformer aujourd'hui. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, et merci d'avoir fait preuve de t'être donné pour nous. Tu n'as pas regardé tes droits, tu n'as pas regardé l'injustice qu'on te faisait, parce que tu savais qu'est-ce que tu t'en allais faire. Tu savais que tu t'en allais donner ta vie pour nous donner la vie, Seigneur. C'est dans ton nom qu'on veut te prier et te remercier. Amen.